Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast, nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme. Ugolf Blue Green, Callaway et Garmin. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Au sommaire de ce 11e numéro de la saison, nous allons revenir sur la victoire historique des frères Fitzpatrick lors du Zurich Classic. Le gros débat, Jim Furyk est officiellement le capitaine de l'équipe US pour la Ryder Cup 2027 qui va se tenir en Irlande. C'était déjà le capitaine lors du naufrage en France de Team USA. Est-ce un bon ou un mauvais choix? Je vous poserai la question. Et puis le mulligan, vous êtes chacun venu avec un petit sujet que vous allez nous proposer. Peut-être que ce sujet sera recalé à l'entrée, évidemment, comme en boîte de nuit. La Dream Team aujourd'hui, Médéric Coquer de Callaway, Romain Fontaine de Garmin, notre prof de golf du golf Blue Green de Pessac, Rabucho Artola et notre éditorialiste Simon Dutin. Salut les amis.
Salut les gars.
Hello.
Bonjour.
Ça va? Ça va? Oui, ça va.
Ah,
ça
impeccable.
Va. Vous avez vu, hein, on peut jouer à deux au golf. Hein, on peut avoir des tournois de double.
Heureusement.
Non, on joue à cinq. Voilà, quand on est dans le practice RMC. Voilà. Je préfère à 5 qu'à 2. Enfin, vous me direz évidemment ce que vous en
famille.
Pensez.
Et en famille.
Et en famille. Bah, nous aussi, on est en famille quelque part. Non, Rabucho?
C'est vrai, c'est vrai.
Hein, t'es comme mon grand tonton.
Oui, j'ai dit, oh, quel statut. J'en suis honoré.
Écoute, c'est tout le plaisir est pour moi. On a beaucoup de choses à développer aujourd'hui. On va débuter évidemment avec l'actu chaude, les frères Fitzpatrick.
L'objectif, se mettre dans un rayon de 2 mètres pour laisser un peu de rentrable à son frère. Oh, elle est belle. Elle est belle. Exceptionnel, Matthew Fitzpatrick qui va offrir sur un plateau la carte sur le PGA Tour à son petit frère. Et comme un symbole, c'est Alex lui-même qui va s'offrir le plus beau cadeau de sa carrière. Il rejoint son grand frère Matt sur le PGA Tour. Les deux hommes remportent ensemble le Zurich Classic 2026.
Et on va revenir sans nul doute à cette sortie de bunker de Matthew Fitzpatrick au 18. Alors c'est le seul tournoi en double du PGA Tour, le Zurich Classic disputé à la Nouvelle-Orléans. Et il nous a offert, c'est vrai, un scénario et un dénouement de dingue. Les frères Fitzpatrick, longtemps en tête, ont résisté jusqu'au bout pour s'imposer et marquer l'histoire de l'épreuve. Ils sont devenus les premiers frères à remporter ce tournoi. Une victoire, vous l'avez entendu, qui permet à Alex, le cadet des Fitzpatrick, d'intégrer le PGA Tour. Des droits de jeu jusqu'en 2028 à noter. La très belle performance, on pourra y revenir. Aussi de la paire française Mathieu Pavon et Martin Couvrat qui termine à la 20e place avec un total de moins 23. Déjà une première réaction sur cette victoire des frangins Fitzpatrick, c'est évidemment la belle histoire du week-end. Simon Dutin.
Oui, c'est la belle histoire du week-end et ça restera une des belles histoires de la saison et une belle histoire dans l'histoire même du golf, et on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est ça qui va un petit peu sauver cette édition du Zurich et peut-être... À l'avenir, le golf en double, parce que, bah, en effet, tu l'as rappelé dans ton intro, c'est la première fois que deux frères gagnent ensemble. C'était déjà, je crois, la première fois que sur une même saison, deux frères gagnaient à une semaine d'intervalle de gros tournois, parce qu'il avait gagné à Delhi quand même, le petit Alex, alors que Matthew vient de s'installer, en train de s'installer comme le patron du golf mondial. Donc, il y a cette espèce de satisfaction. On reparlera du champ des joueurs qui étaient présents cette semaine. Cette satisfaction à voir que le meilleur joueur actuel a emmené son petit frère sur le dos et lui a dit « Bon, ben voilà, tu vas venir jouer sur le PGA ». Donc, à ce titre-là, l'histoire est belle. Le scénario de ce dimanche est beau parce qu'ils ont failli la goinfrer après avoir envoyé 57...
La veille, on va revenir sur le scénario dans quelques
mais en effet, voilà, on retiendra voilà, ce moment d'histoire et voilà, ces bons Fitzpatrick qui sont sympathiques et notamment Matthew, l'aîné, bon, il a un côté assez attachant au-delà du fait que c'est quand même un sacré joueur de golf.
Et on pourra revenir aussi sur son statut qui a peut-être changé, peut-être pas sur ce tournoi, mais peut-être aussi sur celui d'avant, en tout cas sur cette saison 2026. Incroyable, Romain.
Moi, j'ai trouvé ça super, super beau de les voir tous les deux. Alors moi, déjà, j'adore les compétitions en équipe. Je trouve ça génial. Et puis, de les voir gagner comme ça tous les deux, se prendre dans les bras, après aller voir les parents, je trouvais ça trop mignon. Et puis après, ils ont été exceptionnels tout le week-end. Donc voilà, et comme Simon, c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur sur la fin. Moi, j'ai vu que sur toute la compétition. On en reparlera peut-être aussi du champ du joueur. Je connaissais un peu moins Alex, pour être tout à fait honnête, que j'ai découvert là aussi sur ce week-end, même si il a une victoire récente. Et j'ai bien apprécié aussi le joueur et la solidité qu'il a fait preuve durant tout le week-end, parce que en effet, il y a Matt qui était là, qui a son nouveau statut, troisième joueur mondial, si je ne dis pas de bêtises, qui a assuré sur les trois premiers tours. Il a été monstrueux. J'avais l'impression qu'il marchait sur l'eau, il ne pouvait rien lui arriver. Et puis son frère était là, mais il jouait quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été que spectateur. C'est-à-dire que quand il a fallu être là, il a pris la relève et bien. Et ce qui fait qu'ils ont eu une paire incroyable. Donc la complicité des deux, à mon avis, a bien aidé aussi sur cette belle victoire au Zurich.
Je me souviens notamment d'un lob shot à un moment donné du tournoi. Je crois que c'est sur le 13, oui. Où il faut sauver vraiment quelque chose de très important, et on pourra y revenir. Médéric, sur la victoire des Fitzpatrick, emballé ou pas ?
Bah, emballé, parce que on sait que ce sont déjà deux joueurs et deux frères qui s'entendent super bien. Ça fait plusieurs années qu'on compare les deux, et même si Matt était plus sur le devant de la scène pour ses résultats et ce qui vient de se passer les 10 dernières années, ils étaient quand même sur le papier les deux joueurs, la paire qui était normalement la mieux positionnée avant la semaine, parce qu'il y a eu des leads pour Alex, mais il y a Matt qui a gagné il y a 7 jours, 8 jours sur le PGA, et donc deux joueurs en forme qui s'entendent bien, qui jouent ensemble depuis extrêmement longtemps. Donc je trouve ça génial et je ne suis pas étonné.
Ok, pas étonné. Pour toi, Ramucho ?
Oui, comme l'a dit Romain, dès qu'on peut faire des tournois en double, surtout qu'on peut casser le petit ronron du PGA Tour, ça n'est que mieux. Et je voudrais aussi souligner le parcours qui se prête vraiment à ce genre de compète. Il y a des plans d'eau, des lignes à aller rechercher, des coups à tenter. Donc le décor s'y prête. Et si à la fin, le parcours et le tournoi est devenu très intéressant, c'est aussi grâce au design du parcours. Et évidemment, je vais retenir surtout les derniers 9 trous où on a vu le grand frère être un peu à la dérive, et le petit frère qui était là pour sauver des points, comme tu l'as dit, via son lob, etc. Mais voilà, moi j'ai qu'une peur, c'est que après le troisième tour, il y a un cavalier seul des brothers Fitzpatrick, et heureusement entre guillemets qu'il y a eu ce petit moment de flottement à partir du 10.
Mais surtout quand on voit leur carte de samedi, c'est-à-dire c'était un record, moins 15. Cette carte des frangins, c'est absolument phénoménal. Et c'est vrai qu'on s'est dit, il n'y aura finalement pas beaucoup de suspense. Est-ce que les derniers 9 trous, Simon, sauvent un peu le tournoi ? Quand même.
Plus que ça, mon cher Jean-Christophe, parce que pour moi, c'est le pire tournoi de la saison du PGA jusque-là. Franchement, j'ai eu du mal à rester concentré. Crédit aux copains de Canal+, qui ont bien, bien plus que fait le job pour nous tenir quand même éveillés, nous donner plein d'infos. Parce que tu parles du 57 qu'ils envoient en 4 balles le samedi. Même ça, excusez-moi, c'est chiant. Ça a été chiant. Il n'y a pas eu de moment où on s'est dit « Waouh, c'est extraordinaire, on assiste vraiment à du golf de très haut niveau », parce que en effet, pour moi, je rejoins les copains, on l'a souvent souligné, il faut que le PGA se réinvente, il y a des formules à créer, et on a envie de voir ces mecs-là jouer en double ailleurs que les quelques élus qui disputent la Ryder Cup.
Est-ce que c'est le bon format, c'est ça ?
Franchement, ça ressemblait, c'est comme si tu organisais un... Quand tu regardes le champ de joueurs, c'est comme si tu organisais ton anniversaire et que tous les gens les plus cools de la classe venaient pas, tu vois.
Pas d'accord.
Il y a que les mecs un peu chiants qui sont jamais invités à une fête, qui ont répondu à l'invitation. Tous les mecs cools, ils sont pas là. Donc je vais revenir avec mon concept de ceux qui s'assoient au fond du bus, tu vois, et qui sont vraiment les patrons du circuit. Moi, j'ai envie de voir ces événements avec les stars. Excuse-moi, tu regardes, si c'est pas les frères Fitzpatrick, j'y reviens, qui gagnent, avec la belle histoire qui va avec. Bon, t'as Smalley, Springer, t'as Thompson et Crote, t'as Reitan et Lino Ventura, là, je sais plus, le Norvégien. Enfin, il se passe rien. Koepka et Laurie, qui est la paire un peu excitante en début de tournoi, ne passe pas le cut. Il y a nos Français, évidemment, pour nous divertir. Et tu regrettes, ouais. Et même, j'ai envie de dire, jouez-le en foursome pendant 4 jours, parce que vraiment... On s'est ennuyé, et s'il n'y a pas le narratif, encore une fois, la belle histoire des Fitz Brothers, franchement, le tournoi, il passe à l'as. Ouais.
Ok, pas d'accord.
Pas d'accord, Ramucho. Le format est parfait, 4 balles foursome, c'est les deux formules qui s'y prêtent. Mais surtout, le PGA Tour est à 100% tort. Qu'est-ce que tu places un double, un double, un format double, une compétition en double, entre 4 tournois du des Signature Events. Comment veux-tu que les meilleurs joueurs ne fassent pas un break sur cette semaine? Il y en a qui ont fait un break cette semaine, il y en a même qui vont faire un break la semaine prochaine, au Doral, alors que c'est un signature. Donc ce tournoi est très, très, très mal positionné dans le calendrier. Et effectivement, si on veut le faire disparaître...
Ouais, mais ça ne lui rend pas service.
Ça ne lui rend pas service, c'est ce que je te dis.
Ah, oui, oui.
Le tournoi en lui-même, le
donc
format
pas,
est top.
Donc tu n'es pas tant en désaccord que ça avec
si,
Simon.
Que
c'est-à-dire que
il
le plaît. Champ de joueurs, oui, s'il n'y a pas l'histoire des Fitzpatrick...
Oui, mais
passe à côté,
c'est,
non
mais... C'est uniquement un problème de placement dans, oui. dans le calendrier, c'est tout. Mais le format, il est top, je suis désolé. Okay.
Le format est super, mais moi, je le mettrais peut-être en début de saison.
Et par exemple,
dans ce cas-là, pour lancer
exemple,
le truc, à un ouais. moment, on sent qu'il y a un creux en février où il ne se passe rien, et pourtant, il fait beau là-bas, nous, on n'a rien en Europe, donc ça serait l'occasion aussi, de, bah, dans le cas d'Alex, de pouvoir choper sa carte sur le PGA Tour, qui, ça, c'est mon avis, je ne suis pas super OK pour ça. Surtout qu'on voit la qualité du champ de joueurs, parce que là, si, si je repense ce que dit Simon, la première paire qui commence à être sexy, elle termine 24e, c'est Rai et Tigala. Hein. Ouais. Avant ça... Sincèrement, tu es obligé de cliquer pour voir le prénom du gars parce que tu n'es pas sûr que ça soit, le bon, ça soit vraiment le joueur que tu connais.
Ouais, mais est-ce que ce n'est pas la première année où c'est comme ça? Parce qu'il y a eu quand même des gros noms qui ont gagné ce
tournoi. Les années précédentes, en fait, ça a servi de kicker à un Rory McIlroy qui gagnait plus un tournoi depuis 2-3 ans. Donc oui, ce n'est pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il renoue avec le succès sur le PGA Tour grâce à son copain Shane Lowry. Quand il n'y a pas des petites histoires, enfin, tu sens que ça sert un peu d'exhibition à des mecs qui sont soit en manque de temps de jeu, soit en manque de repères.
Je suis d'accord, quoi. Ça fait très exhibition, et notamment, et on ne va pas s'en plaindre parce qu'on trouve ça super, mais Mathieu Pavon qui invite Martin Kouvra, c'est-à-dire que c'est aussi sur invitation. Oui, c'est génial, mais est-ce que ça ne dit pas justement le problème de ce tournoi? Si vous aimez bien le format, encore une fois, si vous aimez bien ce tournoi, est-ce que juste un tournoi dans l'année, ça suffit pour faire adopter la formule de jeu aux gens? Pas sûr.
Je reviens sur pour répondre à ce que tu dis, JC. Moi, je reviens sur le fait d'avoir cette carte. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué à avoir tout au long de l'année sur les gros tournois où les mecs n'ont pas accès, sur les petits tournois, les mecs du camp de ferry qui ont du mal à se battre pour aller choper ça. Et là, je prends l'exemple, si Pavon et Kouvra avaient gagné, Kouvra choper sa carte,
c'est un petit bonus.
Sans forcément réellement, est-ce que ça montre que tu mérites, ou en tout cas que tu as le niveau pour te positionner sur le PGA Tour?
Alors tu l'attends,
c'est
pas
une
tout
opportunité,
seul.
C'est la seule opportunité de l'année.
Oui,
comme ça quand même.
Oui,
mais
encore,
pourquoi pas,
regarde,
Martin, il est pas loin de la décrocher l'an dernier.
Oui,
non, mais pour aller dans l'hypothèse que tu mentionnes, il est pas si loin de la décrocher l'an dernier par son classement du DP. Et Alex Fitzpatrick, je crois, sauf erreur de ma part, il était 6 du DP avant ce tournoi, donc c'est-à-dire qu'il est en contention pour l'avoir. Mais en effet, ça peut être un gars qu'on n'a jamais vu, qui touche pas une bille et qui, en effet, touche ses 2 ans d'exemption sur le PGA parce que son copain l'a porté sur son dos, même si là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque c'est Alex qui a fait le boulot sur les 9 derniers. Mais ça pose une vraie question, et notamment pour des mecs qui se battent toute la saison comme des chiens pour échouer à...
Ou dans ces cas-là, pardon, c'est t'oblige peut-être à faire des paires. Un joueur américain, PGA Tour, un joueur DP World, et dans ces cas-là, tu communiques et tu rends le truc sexy en disant « venez jouer ».
J'emmène un copain avec moi.
Exactement. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a une histoire intéressante, et c'est ce qui se passe avec les Fitzpatrick, outre le fait qu'ils soient frères, mais c'est le fait de dire « ok, j'offre à mon frère là, l'opportunité de venir me rejoindre et de créer un truc sympa ». Tu fais ça, tu aurais fait ça il y a quelques années avec les frères Hojgaard, où t'en as un qui était encore sur le DP World, l'autre qui était sur le PGA, tu crées un truc avec une histoire, il y a moyen, je pense, de rendre le truc plus sexy, même
l'année
à cette
dernière, ils ont failli le gagner, ils ont fini à un point, une seconde, en finale dernière.
Donc, je m'arrête juste, cette année, les organisateurs du tournoi ont beaucoup de chance qu'il y ait l'histoire Fitzpatrick, sinon, c'est tournoi nobody, quoi.
Oui, absolument.
Ah, oui. Après, il y a eu un troué de Koepka et de Lowry. Là, sur le papier, la paire, elle était quand même intéressante. Koepka, en plus, je pense qu'il avait besoin de ces points-là pour pouvoir aller faire la suite de la saison.
Présence de Koepka, moi, je suis pas allé voir l'avant-tournoi, mais tu te demandes ce qu'il fout là, quoi, Brooks. Tu sens que c'est l'opération rédemption.
Rentrer dans les signatures.
C'est l'opération rédemption. Il a des points à aller gagner. Et puis... il n'est pas interdit de penser que s'il avait toujours ses droits de jeu en intégralité, il ne serait même pas intéressé à cette affaire.
En fait, j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour du pot. C'est-à-dire que sur certains tournois, s'il n'y a pas les cadors, ça va être dur pour exister. Et quand on voit, par exemple, et il a raison, mais on en a souvent parlé, qu'un Rory McIlroy prend 3 semaines de vacances en zappant notamment ce tournoi-là, en zappant la semaine prochaine l'un des tournois signature, ça pose peut-être question sur... et d'ailleurs, on en avait parlé dans un épisode, c'est-à-dire que le PGA Tour essayait de moduler différents tournois pour les prochaines saisons, une refonte pour que les meilleurs soient tout le temps là.
Mais la prochaine étape, c'est en effet de transposer ce modèle, selon moi, à un signature event. Tu dis au mec, voilà, il y a tant de points, il y a tant de points au classement, et tu les incites forcément, de toute façon, avec le price money et avec les conséquences que ça peut avoir à la FedEx, parce que tu as envie de voir Scheffler avec Sam Burns, tu as envie de voir Schauffele avec Cantlay, tu as envie de voir des paires européennes de riders, tu as envie de voir ces mecs-là. Et parce que j'allais ajouter juste un petit détail, mais je crois que c'est notre camarade François Calmels qui l'a remarqué aussi pendant le direct. Je m'étais fait la réflexion, moi, durant le week-end, par rapport à ce qu'on voit en rider dans les pairs, je trouve que les mecs communiquent pas vraiment entre eux. Il y a une ou deux fois où il y a une lecture de putt commune, mais il n'y a pas de communication. Les gars ne la jouent pas vraiment en équipe. Les caddies se parlent vaguement. Tu ressens pas vraiment le team spirit.
Oui,
en
tu ne le ressens pas.
Oui, tu le ressens pas parce que c'est du stroke play malgré tout. Voilà, donc chacun... Déjà, il faut se mettre d'accord sur la balle. Ce n'est pas le même équipementier, etc. Que tu ne sois pas aussi galvanisé qu'en Ryder Cup, ça ne m'étonne pas, parce que ça n'est pas du match play.
Puis pas les enjeux.
Voilà. Mais je suis persuadé qu'il y a une osmose entre les joueurs et qu'ils se connaissent et qu'ils sont quand même en grande majorité complémentaires.
Oui, mais ça fait partie, excuse-moi, du spectacle, aussi de ce qu'on vient chercher à la télé.
Simon,
on a envie de voir, si on aime le double, c'est parce que ces mecs-là qui se battent contre le parcours, mais les uns contre les autres toute la saison, on a envie, même si ça ne change pas grand-chose au jeu et au score, peut-être au final, on a envie de voir ces types-là se parler, se conseiller, se faire des signes. Tiens, regarde, moi je la jouerais plutôt comme ci, comme ça. Je veux dire, ça fait partie, moi, de ce que je viens chercher lorsque je vois du golf en double.
Alors, le PGA Tour, je le recommence, il est blâmable à 100%. Mais soit tu fais un tournoi qui tient la route, c'est le seul double de l'année, on fait ce qu'il faut par rapport aux dates, par rapport au prize money, par rapport au champ, on fait ce qu'il faut. Là, on a une semaine creuse et on ne sait pas, tiens, ah, il reste le double qu'on n'a pas placé. Voilà, ça fait un tournoi, un peu cheap, et puis effectivement, malheureusement, sans être mauvaise langue par rapport aux joueurs, c'est vrai quand tu vois le champ de joueurs, c'est vrai que c'est pas excitant, voilà. Mais encore une fois, il est malheureusement très mal placé, il est très mal né entre des signature events.
Bon, on va en dire du bien de ce tournoi, notamment dans ton mulligan, parce que tu veux nous parler de cette sortie de bunker au 18 de Matthew Fitzpatrick. On en reparle dans quelques instants. Mais tout d'abord, souvenez-vous juste pour vous rafraîchir la mémoire, je ne sais pas ce que vous faisiez en 2018, c'était il y a 8 ans, c'était passé ça. And that does it right there. It's over. Mickelson concedes. Eh oui, c'était il y a 8 ans, 2018, lors de la Ryder Cup disputée en France. Alors, c'est dans les vieux pots que l'on prend les meilleures des confitures, visiblement aux États-Unis. Il y a quelques jours, la PGA of America a annoncé le nom de son nouveau capitaine de l'équipe US pour la Ryder Cup 2027, qui se déroulera en Irlande. Le nom en question, Jim Furyk, déjà donc capitaine de cette équipe US en 2018, lors de la déculottée de son équipe en France. Le vainqueur de l'US Open 2003, âgé de 56 ans aujourd'hui, devient ainsi le quatrième capitaine américain a bénéficié d'une seconde chance depuis 1979, qui est donnée comme une date repère à l'ère moderne de la Ryder Cup. Cette désignation intervient après le retrait, vous le savez, de Tiger Woods dans cette course au Capitana à la suite de son accident de voiture et de son arrestation. Il y a quelques semaines, un défi énorme attend Jim Furyk, renoué avec la victoire qui fut les Américains déjà depuis 2021, mais surtout à l'extérieur depuis 1993. Alors Jim Furyk, capitaine, est-ce que c'est un bon et un mauvais choix? Juge passe dans les rangs, bon ou mauvais choix pour toi, Romain?
C'est pas très enthousiasmant, mais pourquoi pas? Ça peut être sur l'expérience et la stabilité, donc ça peut être aussi un choix cohérent. Et...
Ok, choix cohérent. Tu dirais quoi, le mot que tu utiliserais, toi, Médéric?
Moi je trouve ça très bien. Je pense que c'est un guerrier Furyk et je le vois bien faire en sorte de essayer de gommer les erreurs qu'il a pu faire en 2018.
C'est un guerrier, on parle pas du boxeur hein.
Non,
c'est pas le même hein.
Du tout.
Très bien, c'est le golfeur hein. Ramucho.
C'est logique mais loin d'être incontestable.
Ok, et pour toi Simon?
Je dirais que c'est pas un mauvais choix.
C'est pas un mauvais choix. Bah vas-y, tu prends la main.
C'est pas un mauvais choix dans le sens où il faut regarder qui tu peux mettre à sa place. Au bout d'un moment, tu regardes le réservoir, tu regardes les candidats, tu regardes les mecs éligibles. Alors, c'est vrai que si on peut, j'en sais rien, évacuer quelques candidats peut-être crédibles, un Stu Sink qui aurait pu être un candidat légitime. Il vient de gagner sur un des majeurs sur le Champions Tour. Il a à la fois l'âge, l'expérience et... je sais pas, un petit peu la carrure émotionnelle, psychologique qu'on peut attendre d'un mec dans ce rôle-là. Un Brent Snedeker, que moi j'ai hâte de voir en tant que capitaine de President's Cup cette année, qui je pense a toutes les qualités nécessaires pour être un bon capitaine US. Après, il faut aussi se rappeler que, bon, aux États-Unis, on n'aime pas les perdants. Tu sais, quand tu perds à l'élection présidentielle, c'est rare que ton camp te réinvestisse pour l'élection suivante. On a peu de foi dans ceux qui ont prouvé, pour X ou X raisons, qu'ils ont
à
déjà...
À part si tu dis qu'il y a eu magouille.
Ouais,
t'as la chance de pouvoir revenir.
L'élection a été volée. Furyk, on ne peut pas dire que la défaite en 2018, elle a été volée. Mais quand tu regardes un petit peu les reproches, alors, ce qui joue en sa faveur, c'est que depuis, il y a eu alors Stricker qui a fait la belle victoire à Whistling Straits. Alors pourquoi pas Steve Stricker? Pourquoi est-ce qu'on lui a proposé? Justin Leonard aurait pu être un candidat. Mais quand tu regardes le carnage Zach Johnson, qui peut même plus se pointer devant un micro américain sans se faire insulter parce que il a perdu. Et puis Keegan Bradley, avec qui il y a beaucoup de mensuétude. Bon, tu te dis que Furyk, finalement... Quand tu te souviens des reproches qu'on lui a fait après la défaite, on se souvient que les Américains, avec l'armada qu'ils envoient à Paris, ils sont ultra, ultra, ultra favoris. Quel reproche on lui avait fait? On lui avait dit il a pris Tiger Woods, il n'a pas pu, il n'a pas osé laisser Tiger à la maison. Mais Tiger, il gagne le Tour Championship quelques jours avant. Comment tu peux le laisser à la maison entre la stature et la forme du moment? On lui reproche de prendre Bryson, qui n'est pas un joueur d'équipe. Bryson, il venait de gagner deux fois en play-off, justement, à l'époque. Donc, après, les pairings peuvent être contestables. La forme des joueurs, voilà. Nous, c'était, sauf erreur de ma part, je crois, la première des riders sous l'égide des stats de Dodo Molinari, je crois. C'était un peu la révolution côté européenne. Donc, tu as envie de te dire, à la lumière de ce qui a été rappelé là dans les intros des copains, qu'entre voilà, le passé de... Deux joueurs, la stature, le côté un peu le sang glacé qui coule dans les veines, un peu très analytique, très la tête sur les épaules.
Que bon, c'est pas un si mauvais choix que ça.
Si t'as envie de remettre un petit peu d'ordre dans la maison américaine, c'est pour ça que je dis que c'est pas un mauvais choix. Il y aurait peut-être eu, tu peux peut-être trouver mieux et on verra ce que ça donne, mais a priori c'est pas un mauvais choix.
Juste pour parler des capitaines potentiels, il y en a un que je ne sais pas pourquoi on ne laissait pas en Ryder Cup alors qu'il a eu du succès en présence, c'est Fred Couples qui est très populaire auprès du public.
Est-ce qu'il a envie, Couples?
Ben si, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas dans les tuyaux, dans les arcanes du PGA, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un joueur fantastique, un capitaine qui a fait ses preuves en présidence.
Est-ce que la PGA Couples of America a dû se faire des nœuds au cerveau après le retrait forcé de Tiger Woods? Est-ce que c'était écrit que c'était Tiger Woods?
Oui.
C'était peut-être la meilleure chance d'ailleurs qu'il fasse quelque chose.
Ouais.
À mon sens, ouais.
Pour moi, c'était l'objectif aussi de Tiger. Ouais. C'était son avenir, il était là-dedans. C'est un meneur d'hommes, un capitaine, il doit avoir ça dans le sang. Tu vois.
Ouais, donc c'était Tiger Woods, donc il a fallu trouver un substitut.
Ouais, et puis t'as peut-être plein de mecs qui n'ont pas osé, qui ont dit non clairement pour... Pour éviter une déconvenue comme ce qui a pu se passer pour les autres capitaines les dernières années, et peut-être par peur ou par manque d'ouais, je me mets à leur place aussi. Quand tu vois les résultats qu'ils viennent d'avoir, c'est quand même compliqué.
Il y a raison, mais Derek, c'est vrai qu'il y a des grandes conséquences s'il y a une défaite pour le capitaine, pour le joueur, un peu moins, je trouve, pour les joueurs, mais pour le capitaine. Qui doit présenter ensuite en rapport une défaite, je trouve qu'il y a de grosses conséquences et son image, du coup, elle peut être écornée, même si c'est un super joueur. Hein. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait du monde non plus qui tape à la porte.
Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un bon challenge parce que justement, là, ils y vont pour écrire l'histoire. Tu l'as dit, 93, je crois, la dernière à l'extérieur. Au final, ça peut aussi retirer un petit peu de pression en se disant, bon, de toute façon, à chaque fois, on se prend des déculottés. 17-5, 10-5, je crois, au golf national. Donc, je me dis, pourquoi pas, au final, ça ça peut peut-être le décomplexer un petit peu. Donc, ouais, ça peut se nuancer.
Il y avait eu quand même des soucis, tu les avais soulignés en 2018, avec, bon, il y avait la présence de Tiger Woods, mais bon, là, tu fais avec Tiger Woods. Il y avait aussi la présence de Phil Mickelson, tu ne l'as pas rappelé, qui avait été contesté. Et c'est vrai que tous ces choix, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choix qui ont été payants. Il y a eu aussi des problèmes avec Patrick Reed, parce que avec Jordan Spieth, ça se passait mal, et donc il a été accusé d'avoir mis Patrick Reed sur le banc.
Et les picks qu'il avait choisis, pardon, avaient ramené, je crois, 2 points. C'était son choix.
Deux points et 10 défaites.
Après, voilà. Pour moi, c'était une des équipes les plus individualistes des dernières années côté américain. Donc, va gérer un groupe d'individus qui ne pensent dans l'absolu qu'à leur, entre guillemets, à leur jeu et aux performances que eux, à titre personnel, peuvent générer. Je pense que c'était pas simple non plus. Et c'est peut-être pour ça que cette année, avec ce qui se passe, avec l'histoire du livre, où il sait qu'il y aura des joueurs qui seront peut-être moins présent, donc il y aura peut-être moins de cette problématique, et justement ils vont peut-être demander à Fury de créer une équipe.
Ça a toujours été quasiment, j'ai envie de te dire, dans tous les sports, le problème des États-Unis. Enfin, c'est un problème de riches, c'est-à-dire qu'ils ont un tel réservoir que les mecs qui sont au sommet du golf en stroke, en individuel, c'est compliqué d'aller dire à des mecs qui gagnent toute la saison, en revanche, dès que tu joues en équipe, t'es pas bon, je te laisse à la maison. Parce que on va encore revenir à ça, des mecs qui ne performent pas forcément en individuel, t'as toujours envie de croire que ce qu'ils ont en eux, la confiance qu'ils ont accumulée avec des succès, même si c'était il y a quelques années, l'aura qu'ils ont, ce qu'ils représentent auprès du public, vaut dans ces instants où l'atmosphère est différente qu'au quotidien du PGA, t'as envie de te dire que tu sais, c'est les Justin Thomas, les Patrick Cantlay, je reviens toujours, j'ai des obsessions, mais tu vois, c'est des mecs qui ont la carte, tu vois. Encore une fois, c'est les mecs cool du PGA, c'est les top dogs, mais bon, ça gagne plus un tournoi. Mais au moment de faire ton choix, est-ce que tu mets les Bridgman, les Gotterup, les machins qui ont pas de vécu, pas d'expérience, pas de justement d'habitude dans les attentes du public, est-ce que tu
choisis un peu toujours les mêmes,
mais parce
c'est ce que
avant,
mais c'est ce que fait l'Europe aussi
avant le Zurich, avant le Zurich, 50 des 100 meilleurs joueurs mondiaux étaient américains. Je sais pas, j'ai pas vu le classement mis à jour aujourd'hui. Donc c'est compliqué d'aller expliquer à des joueurs qui sont au sommet du golf mondial depuis des années que là pour la Ryder, non, tu le sens pas et que tu crois pas en eux.
Moi, j'ai une hypothèse. Vous allez me dire si vous la validez. C'est-à-dire que, normalement, la place de capitaine était promise, évidemment, à Tiger Woods. Il a fallu faire un autre choix. Et je me dis que celui-ci, c'est un peu le fusible facile. Parce qu'on va dire qu'en Irlande, on est bien d'accord que les Européens sont favoris. Surtout après 2 victoires de suite. Et donc, on ne va pas griller un Fred Couples qui pourra nous servir plus tard. Et Jim Furyk, bon, il a été vice-capitaine là, lors de la dernière session. Il
bon
a été capitaine en 2018. Ce que je veux dire, c'est qu'on part outsider, donc autant mettre quelqu'un qu'on grillera facilement.
Oui.
Non, vous achetez ou pas ?
Oui, et puis si ça gagne, l'histoire est belle, quoi.
Mais comme tu le dis, il y a quand même en face, en Europe, depuis maintenant 3 éditions, une génération exceptionnelle chez les Européens, chez les Américaines. D'ailleurs, on demande à Luke Donald de continuer son capitanat, c'est pas neutre. Donc il faudra qu'en face, chez les Américains, il faut aussi un capitaine. Quand tu iras jouer en Europe, parce que tu t'es fait marcher dessus à la maison aux États-Unis à Bethpage, il faudra un capitaine qui insuffle, qui soit exceptionnel, quoi, dans le discours, dans la presse, dans la performance, etc. Et amener ses troupes, je suis pas certain qu'un, comme tu le dis, Jim Furyk ait ce profil. Et davantage peut-être, comme je disais, Freddy.
Romain.
Non, moi, ce que j'aimerais savoir par rapport au rôle du capitaine comme ça, c'est qu'est-ce qu'il fait tout au long de l'année, entre guillemets, pour justement faire sa sélection de joueurs derrière ? Parce que son rôle, pour moi, ça va être d'aller sélectionner des joueurs qui peuvent être complémentaires. Par exemple, tu le disais aussi, pas forcément des mecs qui sont super bons en individuel, parce que peut-être qu'en équipe, ils vont pas être à la hauteur. Mais justement, pour moi, c'est le rôle d'un Furyk à ce moment-là, d'aller chercher, de trouver des connexions peuvent se faire.
Et surtout, c'est vice-capitaine. Le choix des vice-capitaines, il est primordial.
Très, très important.
Et il tourne toute la saison sur les circuits et il voit qui c'est qui peut matcher en nous, parce qu'il y a quand même... 16 points, plus que ça. en double en Ryder Cup. Enfin, il y a un nombre de points en double en Ryder Cup qui n'est pas négligeable. Il y a 12 simples. Donc, il faut trouver des pairings qui soient performantes, ouais, et qui ramènent des points.
Ils ne se sont pas entraînés sur le Zurich classique, en tout cas.
Mais c'est ça.
J'ai l'équipe pas l'impression, malheureusement. Ouais. J'ai pas l'impression.
Enfin, l'équipe européenne, c'est un peu pareil aussi. Mais est-ce que c'est... Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'on peut se dire, attendez, la Ryder Cup, c'est en 2027. OK, c'est l'officialisation du capitaine. Est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est une étape sur la Ryder Cup et est-ce que celle-ci est très importante?
Bah, pour moi, oui, du coup, parce que justement, ça lui permet d'avoir un peu de temps pour regarder les joueurs, s'imprégner de leur jeu, de voir aussi comment ils se comportent en tournoi, comment ils se comportent peut-être ensemble, en dehors du parcours, et peut-être justement commencer à semer des graines pour pouvoir créer une équipe. Il faut du temps quand même pour faire ça, je suppose.
Ah oui, bien sûr.
Tu vois, donc moi, pour moi, je pense que c'est important.
Et puis tu jettes toujours un petit peu la pièce quand même, parce qu'on se souvient des reproches qui ont été faits à Zach Johnson, notamment de laisser Keegan Bradley à la maison alors qu'il prend Justin. Et puis, tu perds, évidemment, le choix. Enfin, je veux dire, voilà, soit t'es un génie, soit t'es un pimpin. La dernière édition, Fitzy, justement, il est qualifié au point, je crois. Il est sixième qualifié au point. Est-ce que, vu la
saison qu'il avait... On était même là dans le podcast en se disant, Matthew Fitzpatrick, il mérite peut-être pas sa place.
On s'interrogeait. Et est-ce que
Marco Page...
Et s'il n'est pas sixième qualifié au point, est-ce qu'il est dans les captain's pick? Je ne suis pas certain. Et au final, c'est un des meilleurs Européens. C'est celui qui sauve le match contre Bryson, je crois, de mémoire, le dernier jour. Et qui permet de reprendre espoir, alors que tu disais qu'on allait prendre la remontada de la plus grosse de l'histoire. Quoi. Donc, les choix, il n'y a qu'à la lumière du résultat final qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais, malheureusement.
Revoir Keegan Bradley une deuxième année de suite, sachant qu'on a fait confiance...
L'expérience, elle les a refroidis. C'est la raison pour laquelle ils prennent quelqu'un du Serail qui a déjà été...
qui a déjà perdu aussi, comme lui.
Qui a perdu, mais qui... c'est là où je te dis, pourquoi pas quelqu'un de différent.
Jim Fury, il était quand même dans l'équipe de Keegan Bradley, là, en 2025.
Oui, vice-capitaine.
Il était vice-capitaine. Donc, on exonère Jim Fury de la défaite aussi en 2025, ou pas?
Non,
parce qu'il a une petite habitude de perdre. Pardon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie.
Oui, c'est surprenant. C'est pour ça que c'est pas...
Une équipe américaine qui veut gagner...
C'est loin d'être incontestable. C'est pour ça. Mais je pense, comme disait Romain, le choix, parce que jusqu'à présent, il y a le capitaine, encore une fois, qui est mis en avant, mais derrière lui, il y a ses lieutenants, et en général, les vice-capitaines américains ne sont pas aussi impliqués que les Européens. Et donc, c'est le gros boulot de Furyk, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'il a été...
Et c'est ce que tu disais, Médé, c'est que c'est l'homme qui va peut-être permettre de créer une équipe, et c'est peut-être son point fort à lui.
Clairement, et puis la problématique d'individualité dans l'équipe, dans les joueurs, elle est clairement, à mon sens, identique au niveau des capitaines, ce qu'on ne ressent pas avec l'Europe, où effectivement, cette notion d'équipe, elle part du capitaine et elle va jusqu'au cadet du 12e joueur. Et on sent qu'ils s'investissent tous. Et comme on l'a pu l'entendre d'un Colsart, il y a une vraie fierté d'être là et d'appartenir au groupe. Et on sent vraiment que l'impact d'un vice-capitaine est aussi important que potentiellement Lochdonald.
Bien sûr.
Donc je pense que tout joue pour... et c'est ce qui fait qu'en ce moment, en tout cas là, génération dans laquelle nous sommes actuellement, elle est hyper positive pour l'Europe, parce que même des Sean Lowry, des Rose, ces vieux joueurs, parce que ça reste des vieux joueurs, on l'a connu avec Poulter à l'époque, ça reste des joueurs qui, et Rose encore nous l'a montré au Masters, qui ne gagnent pas forcément régulièrement, mais dès que c'est en équipe, je pense qu'il y a ils se transcendent en fait là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que pour eux, la notion d'équipe, elle a plus de valeur que le côté individuel, mais vraiment au fond d'eux. Donc je pense que c'est ce qui crée la différence. Et tant que les Américains, tout ne roule pas et que les pairings ne sont pas bons et qu'il y a toujours cette problématique peut-être de fierté, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y a sûrement un problème là-dedans. On a, je pense, de belles années devant nous.
Bon, pas sûr qu'un Patrick Reed, par exemple, soit présent en Irlande en 2027. Il s'est peut-être rabiboché avec Jim Furyk depuis le temps. C'était en 2018.
Surtout Jordan Spieth qui risque de ne pas voir l'Irlande à l'heure où on se parle quand même.
Bon, il n'est pas si mal en ce moment.
Il est pas si mal. Vous le prenez, vous, demain, si, ah bah si la Ryder, c'est demain? Moi, je suis pas sûr.
Moi, je prends beaucoup Jordan Spieth parce que j'adore ce joueur.
Et moi aussi, bon, au bout d'un moment, faut...
Oui, je prends plus un Patrick Reed aujourd'hui.
Ah, en ce moment, c'est sûr.
Ça, tu as raison. Le mulligan, pour terminer ce numéro du podcast, je passe dans les rangs, vous nous énoncez votre sujet et peut-être que vous n'allez pas parler. Non, je blague, évidemment. Le sujet, Romain, vas-y.
Les Françaises sur le premier majeur, les résultats, en général.
Ok, les résultats des Françaises. Il y avait notamment une Française qui pouvait s'offrir une paire.
Ouais, Pauline.
Admirable. Et le dernier jour n'a pas été aussi bon. On va y revenir dans quelques instants. Pour toi, Médéric.
Bon, on va rester chez les femmes. Moi, ce sera Nelly Korda, sa victoire et le début de saison qui est assez extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2025.
J'ai un peu vendu la mèche, Ramucho Artola, tu veux parler?
Matt Fitzpatrick, oui. Pas uniquement pour sa sortie de bunker, pas uniquement parce qu'il est membre de la FedEx, mais pour l'ensemble de son heure qui est remarquable.
Ok, et pour toi, Simon?
Bon, je t'en voudrais pas si tu me laisses pas m'étendre, mais je voulais revenir sur... Ce qui fait évidemment polémique, c'est le prix annoncé, enfin le prix des billets pour la future Ryder Cup.
Alors quelques secondes, on y va avec toi. On était sur la Ryder Cup et sur le choix des Américains, donc le prix des places.
Bon, en gros, grosso modo, ça va coûter 500 euros la journée, ou ça a coûté, parce que bah, évidemment, ça c'est quand même parti comme des petits pains, et c'est beaucoup plus cher qu'à Rome, quasiment deux fois le prix du billet moyen à Rome. Et en effet, ça fait tiquer. Alors, c'est moins cher qu'à Best Page aux États-Unis. Et voilà, je me demande vraiment s'il faut s'en étonner. Évidemment, la première réaction, c'est de se dire « Oh, ils abusent, franchement, c'est pas possible, c'est censé être l'événement. » On parle suffisamment ici qui universalise l'appétit, l'attention qu'on porte au golf. C'est censé élargir le spectre voilà, de l'intérêt du golf mondial. Mais a-t-on les moyens de faire différemment? On a tendance à se demander comment ça peut coûter aussi cher, parce que bon, c'est quand même être debout le long d'un parcours ou assis dans une tribune. Mais voilà, j'ai l'impression que si on veut faire du golf un des sports qui compte dans le monde, on n'a pas trop le choix. Mais malgré tout, ça prive quand même énormément de gens de la possibilité d'assister à un bel événement.
J'imagine que ça t'a pas échappé. Des places pour deux places pour participer pour voir la finale de la Coupe du Monde de football.
Oui, bien sûr.
2,3 millions de dollars. Non, c'était pas un truc comme ça.
J'ai pas le chiffre, mais voilà.
2,3 millions de dollars.
Encore une fois,
pour la Coupe du Monde de foot. Mais bon,
je tombe pas de l'échelle, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu triste, quoi. Je veux dire, 500 euros pour une place pour une journée. C'est quand même compliqué.
Et c'est un record pour une édition en Europe, mais c'est quand même loin de ce qu'avaient fait les Américains, donc tu le disais, à Best Page. Donc, un petit commentaire ou pas là-dessus?
Oui, après, je pense qu'on le vit dans tous les sports.
Vous qui avez des invitations, non, je blague.
Si seulement. Non, mais après, je pense que vu les résultats européens actuellement, le fait de se dire qu'ils vont aussi... clairement faire venir une clientèle américaine pour qui 500 dollars pour vivre ou 500 euros pour vivre un événement sportif, parce qu'il faut dire ce qui est, ça reste quelque chose, c'est quand même c'est vivre une expérience qui aujourd'hui a la même valeur qu'une finale de Champions League, qu'une finale des JO, parce que j'ai une bêtise, je connais pas les tarifs, mais j'imagine que venir voir une finale d'un sport majeur aux JO, ça coûte,
c'est pas beaucoup.
Donc effectivement, je rejoins Simon où oui, c'est chiant parce que c'est pas abordable. Le truc, c'est que je pense que c'est comme ça partout et quel que soit.
Et ça reste dans l'air du temps.
Je parle du sport, mais on parle des concerts récemment. Il y a eu une très grande chanteuse internationale qui revient sur le devant de la scène. Bah, j'ai l'impression que les tarifs était proche de ça et qu'il n'y aura pas qu'une seule représentation. Donc l'un dans l'autre, ouais, je ne sais pas. Je trouve ça très cher, bien évidemment, mais aujourd'hui, les gens sont prêts à sûrement mettre ce prix-là pour vivre un moment d'histoire.
Je suis assez d'accord. Sachez qu'il y aura des billets mis en vente pour les sessions d'entraînement le mardi et mercredi, et là, c'est 89 euros. Voilà, c'est un peu plus abordable que...
Et moi, pour avoir fait les deux à Paris en 2018... tu peux quasiment te régaler, oui. C'est peut-être blasphème ce que je veux dire, mais tu peux quasiment te régaler encore plus avec les sessions d'entraînement où le public est placé différemment, où les mecs drivent au-dessus de ta tête, ils sont 20 mètres, t'es à 20 mètres face à eux au départ, t'as leur drive qui passe au-dessus de toi.
C'est un spectacle quand même.
Et tu les vois échanger, rigoler, il y a un peu plus d'interaction avec le public. Ah, ça vaut évidemment pas la solennité voilà, des t-shirts quand ça compte. Mais malgré tout, en effet, si les gens peuvent y aller et ne pas se dire oh, les parties d'entraînement, ça n'a aucun intérêt, oui, il faut les encourager à le faire.
Sachant qu'on parle de 89 euros, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière aux US, les parties d'entraînement, c'était entre 300 et 400 dollars. Qui intègre, c'est ce que j'ai compris, apparemment, quand tu arrives sur place, ça intègre la nourriture et la bouffe et les boissons pendant la journée. De là à arriver à 500 dollars, ça fait beaucoup d'argent. Mais je crois que c'était, en fait, les gens venaient aux parties d'entraînement justement parce que c'était 100, 200 ou 250 dollars de moins qu'une journée classique.
Okay,
donc ça effraie personne.
Bon, bah tu vois, c'était un bon sujet, Simon, ça nous a fait réagir formidable. En tout cas. Fitzpatrick, rapidement, tu voulais revenir sur Fitzpatrick. Non, on en a déjà parlé, mais moi je voudrais que tu analyses ce coup du 18 déjà. Alors, juste cette sortie de bunker qui offre le birdie et la victoire à son équipe, aux deux frangins. Pour le commun des mortels, ça paraît une sortie de bunker hallucinante. Est-ce que pour un joueur professionnel, c'est plutôt facile?
Non, elle n'est pas simple parce que ce n'est pas juste une petite sortie de bunker de green, parce que le drapeau est au fond. Donc, c'est une sortie de bunker qui fait 30-35 mètres avec du danger derrière. Et il l'a joué de façon fantastique, il s'est engagé alors qu'il y avait du danger derrière. Il l'a posé, comme vous avez vu, à moins d'un mètre du trou. Donc, c'est un coup exceptionnel déjà dans la dramaturgie, dans la situation, et qui offre la victoire à son équipe et à son frère la carte. Mais surtout, là où je voudrais juste signaler, c'est que Fitzpatrick, c'est le cador dans ce genre de situation. Dès que c'est un petit peu dramatique, dès que c'est un petit peu tendax, dès qu'il y a une pression maximale, il sort le coup. À l'US Open, quand il l'a remporté, depuis le bunker, fer neuf, il est mal placé, il va chercher le mât, boum, le putt, il remporte le tournoi. Il y a 15 jours, face à Scotty, en play-off, il sort un fer 4 de 185 mètres à 3,50 mètres. Merci Scotty, il l'a regardé jouer. Et il remporte le tournoi. Au Valspar, il met quand même un peu, tu me diras, mais un peu de 4 mètres pour la victoire. Donc, c'est cette
faculté.
Dans ce cas de figure, okay. Il y a beaucoup c'est de rare. Joueurs qui douteraient, qui changeraient de plan, qui hésiteraient. Lui, il n'a aucune hésitation, il sait ce qu'il a à faire et surtout, il le fait. Et donc, c'est surtout il se transcende. Dès que la pression est maximale, il se transcende et il sort. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, même à des pros du tour américain. Il y en a certains qui vont s'y fier. Lui, vous avez des exemples? Eh bien non, il va jusqu'au bout et il remporte la victoire. Donc je trouve ça admirable au niveau sportif, au niveau mental et au niveau humain. Voilà, c'est pour ça que je veux le souligner, parce que hier, on retient cette sortie de bunker. Évidemment, c'est spectaculaire, mais il n'est pas à son premier fait d'armes. C'est pour ça que je voulais insister sur...
Il rentre un putt fantastique au 15 quand même pour les laisser dedans.
Bien sûr,
Et voilà, et la sortie, quand tu vois le backswing de la sortie, c'est hallucinant parce que c'est le backswing d'un coup de fer 4 ou de fer 3 sur le fairway. Tu vois le spin de la balle absolument incroyable. Moi, ça m'a rappelé, là je parle sous votre contrôle, c'est la sortie de Bryson pour remporter l'US Open en 2024. Là.
Mais
ça ressemblait un peu à ça. Et en effet, c'est ce que les Américains appellent un joueur clutch. Quoi.
Voilà,
ça
compte, comme dirait Martin, comme tu dis. Aussi, voilà. Et là, c'est la personnification, c'est hallucinant. Et voilà, donc c'est le fameux instinct de tueur qui ressort à un moment, encore une fois, dramatique. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et lui, il les répète de saison en saison. C'est pour ça que je voulais vraiment le souligner.
Et tu avais envie de le mettre en avant et c'est fait. On va parler du premier majeur tout de même féminin de la saison, le Chevron Championship, avec la victoire. C'était ton coup de cœur de Denis Korda, Médéric.
Moins 18, encore une fois,
5 coups d'avance sur la deuxième.
Exactement. Et encore une fois, on parle du golf féminin. Quand c'est une championne qui gagne. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Il faut savoir que ça faisait pas un an, mais presque, qu'elle n'avait pas gagné. Elle n'a pas gagné un tournoi en 2025, alors qu'elle fait un début de saison 2026 qui est quand même assez extraordinaire, avec deux victoires et trois secondes places. Donc là, on sent vraiment que l'année dernière, le fait de perdre sa place de numéro un mondial a... Je pense l'a fait réfléchir et travailler et au final je trouve ça je voulais juste le souligner parce que je trouve ça bien qu'on ait ces champions qui véhiculent quelque chose. En tout cas, je trouve que cette joueuse véhicule quelque chose qui te donne envie de regarder le golf féminin. Je les voyais encore ce matin avec son équipementier textile qui sur sa page Instagram principale la mettait en avant. Ce qui est extrêmement rare. Donc je trouve ça super d'avoir ces joueuses top niveau qui qui reviennent et marquent des points. Et Pierre passe numéro 1 mondial. Donc il y avait tout ça. Donc ça va être une belle saison. Ça va être une belle saison. Et je pense qu'on a moyen de voir des beaux tournois féminins cette année.
Et bah justement, Romain, je te donne la main parce que les Françaises, il y a une 21e place pour Céline Boutier à moins 3. Et on est forcément un peu déçus. 27e place pour Pauline Roussin-Bouchard, qui était 3e avant la journée du dimanche et qui a passé un dimanche calvaire.
Ouais, exactement. Bah, c'était surtout pour faire le petit clin d'œil au golf féminin et au golf français féminin. Voilà, Pauline Roussin-Bouchard qui fait un tournoi assez formidable jusqu'au 3e tour. Malheureusement, voilà, le 4e tour ne se passe pas comme elle l'a espéré, mais voilà, on en retire beaucoup de positifs. Je trouve qu'elle avait un discours qui était vraiment très positif justement sur l'ensemble de ce tournoi-là. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. Donc voilà. Ouais. Elle perd la première place française, on va dire, au profit de Céline Boutier. Mais voilà, 21e, 27e, je pense qu'elle engrange aussi beaucoup de confiance, beaucoup d'expérience pour la suite. Et je trouve que c'est très prometteur pour la suite de la saison. J'oublie pas aussi Nastassia Nadeau, qui était aussi très bien partie dans ce tournoi-là, qui finit un peu plus loin, malheureusement. Mais voilà, et puis Perrine Delacour aussi, elles étaient quand même 4. Donc c'était chouette de les voir.
Et c'est quand même super qu'on ne parle plus uniquement de Céline Boutier quand on parle du golf féminin à ces altitudes-là. Et juste pour revenir à Nelly Korda, là, je rejoins tout à fait Médéric. Si le golf féminin veut continuer son expansion, il a besoin de figures,
d'une superstar,
de stars comme Nelly Korda. Mais il n'y a pas qu'elle. Mais en effet, la façon dont en plus elle gagne, wire to wire, disent les Américains, c'est-à-dire elle a été en tête du premier au quatrième tour, victoire autoritaire, un statement. Elle a rappelé en effet à tout le monde après quelques mois de disette que c'était une des patronnes, voire la patronne du golf mondial pour les années futures.
Et pour être complet sur Pauline Roussin-Bouchard, malheureusement, c'est les 9 derniers qui se passent mal parce qu'elle était encore en course pour peut-être gagner, même si Nelly Korda avait quelques longueurs d'avance, mais elle a juste fait un bogey sur les 9 premiers trous. Et puis après, il y a eu du triple, du double et elle finit avec une carte de 80. Donc forcément, on était très déçus pour elle quand on a vu ce résultat, mais ça signe quand même une 27e place et elle s'installe quand même parmi les meilleures joueuses du monde. Merci les amis pour ce numéro, ce 11e numéro du Practice RMC.
Merci les
copains. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du livre. Ça va pas très bien, visiblement. Et il y a un bison qui voudrait peut-être se faire la malle. On vous donnera toutes les dernières informations et on en parle. Et puis on répondra aussi à toutes vos questions et elles sont nombreuses depuis le début de la saison. Vous pouvez nous poser vos questions sur Instagram et je poserai ces questions à la Dream Team RMC. On vous embrasse d'ici là. Bon golf à tous et à lundi prochain.
Salut.
Le Practice RMC.